tous, nous sommes le jeudi 18 décembre. Vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission est disponible sur le 87.7 FM, en DAB+, et en réécoute sur notre site radiocampusamiens.fr. Alors, pour l'interview du jour, elle a été enregistrée pour notre émission spéciale « Ça ne tient plus ». Cette émission consacrée au financement des associations 2026 qui a rencontré un grand succès parmi nos auditrices. Emmanuel, notre directeur, a pu poser quelques questions à Juliette Charlot, directrice du Centre social interculturel ALCO, situé dans les quartiers nord d'Amiens. Et justement, l'ALCO a participé avec la Fédération Picarde des centres sociaux à la manifestation « Ça ne tient plus ». Aujourd'hui, on vous propose d'écouter une version longue et inédite de cette interview.
Alors, un centre social, c'est un lieu qui permet aux habitants, aux résidents, aux citoyens, aux usagers de construire des projets avec nous. En fait, c'est avec eux et pour eux que nous construisons des projets. En fait, le centre social, c'est tous les gens qui veulent bien l'animer.
Et alors, ce soir, c'est une soirée un petit peu spéciale puisqu'on parle des menaces qui pèsent sur toutes les associations dans les semaines qui viennent. De votre côté, du côté d'un centre social, quelles sont les difficultés qui se profilent ?
Malgré la reconnaissance, on va dire, des élus de territoire sur l'action essentielle qu'on porte auprès des citoyens, on constate, on est tous un peu angoissés parce qu'on apprend que les attributions financières vont se réduire. Qu'il semblerait également, on l'a constaté, que les emplois aidés, ça se complique. Et nous, ça s'est concrétisé cette année, où sur 3 emplois aidés de personnes qui faisaient des médiations sociales, il nous en reste plus que peut-être un. Donc, c'est difficile. Et puis, par exemple, les contrats d'alternants, on apprend qu'on avait des aides de 6 000, ça passe à 2 000. On apprend que les services civiques, peut-être qu'il n'y en aura plus pour les centres sociaux. Voilà, donc c'est concrètement, c'est la perte d'aide financière et la perte d'emploi aidé. Donc, c'est compliqué pour mener à bien notre projet.
Qu'est-ce que ça peut donner ? Parce que c'est une difficulté pour gérer les équipes, mais les habitants, eux, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans le centre social et qu'est-ce qu'ils risquent de perdre ?
On a trois gros pôles importants au centre ALCO. C'est-à-dire qu'on œuvre à la réussite éducative des citoyens, on ouvre des fenêtres sur le monde, on favorise l'épanouissement social. Donc, on a multitude d'activités pour les petits jusqu'aux seniors. Lors de la manifestation du 11 octobre dernier, on avait demandé aux gens de nous témoigner ce que serait leur vie sans le centre social et ce qu'il était avec le centre social. Et on a effectivement des témoignages assez émouvants sur le fait que la lutte contre l'isolement. Donc les gens nous disent « moi j'ai pu échapper à une forme de dépression, j'ai évité à mes enfants de partir dans une forme de délinquance aussi parce que moi il était occupé ». Des gens qui sont contents parce qu'on les a aidés à prendre soin d'eux, à être pour qu'ils soient à leur écoute. Rien que de partager un café avec d'autres Portugais qu'ils rencontrent dans le territoire, le fait qu'ils peuvent souffler, qu'ils peuvent apprendre, se former, s'amuser. Les enfants qui sont chez nous s'amusent. Et pour vous dire le lien très fort qu'il y a des habitants avec mon centre, c'est que nous, on retrouve... c'est-à-dire que des enfants qui avaient suivi le centre mettent aujourd'hui leurs enfants au centre. Donc, c'est vraiment au cœur de leur ville. Et aujourd'hui, par exemple, on n'a pas pu aller à la mer. Et il y a des gens qui n'ont jamais vu la mer et qui nous disent... Sans le centre, moi, je n'aurais pas l'occasion de voyager, je n'aurais pas l'occasion d'être aidée dans mes démarches administratives. Et là, on est vraiment sur l'égalité des chances. Il y a des gens qui ont besoin d'être aidés et c'est pour leur permettre d'accéder aux mêmes droits que tous les Français. Donc voilà, nous, on est là et on forme les gens dans leurs projets. Mais si on n'est pas là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué.
Alors, tu nous parlais du 11 octobre, la manifestation « Ça ne tient plus » qui se poursuit aujourd'hui avec l'émission qu'on réalise à Radio Campus avec le mouvement associatif et la MAM. Avec la Fédération Picarde des centres sociaux, vous y étiez. Au-delà de collecter des témoignages, c'était pourquoi et pour dire quoi ?
Alors, c'est vrai que le message ça ne tient plus. On était très impressionnés de voir qu'il y avait un mouvement national de toutes les associations, parce que quand on regarde les chiffres du milieu associatif, je pense que l'État est bien conscient que d'un point de vue économique, d'un point de vue d'attractivité des territoires, d'un point de vue dynamique, d'un point de vue d'innovation, les associations sont imbattables. Financièrement, c'est porté par beaucoup de bénévoles, mais il y a aussi effectivement une part de projets financés, et les subventions qui se réduisent aujourd'hui nous mettent dans des positions où on n'a plus la liberté d'agir, on n'a plus la liberté d'innover, de se réunir, de porter des valeurs, et que ça nous contrarie. Donc les conséquences, c'est pas demander de l'argent pour demander de l'argent, c'est dire attention, ça va enfoncer la France dans une situation économique et sociale grave, en fait. Ne pas prendre soin des associations du territoire et d'actions essentielles au service des citoyens, comme le font certains centres et d'autres associations d'ailleurs, c'est risquer quelque chose, c'est perdre énormément. C'est perdre une richesse et c'est perdre énormément d'actions en faveur des Français.
Quel avenir ou quels avenirs avec DS tu vois pour l'action publique, l'action avec le public, l'action au service du public qui est menée par les assos pour les mois et les années qui viennent?
Moi, là, aujourd'hui, j'en suis... alors, c'est personnel, c'est que je pense qu'on doit être dans le plaidoyer politique, parce que aujourd'hui, quand on nous invite à hybrider nos ressources, à réfléchir à devenir des prestataires de services pour faire financer nos activités, moi je pense que c'est un leurre, parce qu'en fait les entreprises elles sont aussi en crise, elles n'ont pas forcément de moyens, et puis nous ça nous limite, parce que par exemple il y a des entreprises qui mènent des appels à projets sur certaines catégories de population, mais elles en oublient toute une partie. Nous les centres sociaux, on doit travailler pour tout le monde, donc nous on peut pas mettre à bien notre projet. Donc moi je suis dans le plaidoyer politique de dire, élus, vous êtes aussi, si vous ne nous aidez pas, vous êtes responsable de la disparition, par exemple, du centre. Et si vous n'en prenez pas conscience, voilà les conséquences et on vous a alerté. S'ils peuvent nous aider d'une autre manière en disant, on sait que c'est compliqué, mais on va vous aider, par exemple, à arbitrer, puisque pour moi, la politique, c'est faire des choix, de dire, bon, effectivement, les budgets, c'est compliqué en France, mais on verse 211 milliards aux entreprises, qui est une bonne chose sûrement, mais elles n'ont pas de, elles ne sont pas contrôlées au même niveau que sont contrôlées des associations. Ce serait intéressant de comprendre les milliards versés aux entreprises, comment ils sont utilisés, comment ils sont dépensés et quels effets ils ont sur l'emploi. Nous, on est extrêmement contrôlés. Moi, je trouve qu'il y a un arbitrage à faire à ce niveau-là. Donc, par exemple, ça peut être un plaidoyer d'équilibre sur les hybridations des ressources. Et voilà, est-ce qu'ils peuvent pas, est-ce qu'il pourrait pas y avoir une taxe sur les robots, les machines qu'utilisent des entreprises et qui font perdre des emplois? Nous, on récupère des gens au chômage, donc ce serait bien d'avoir une aide comme ça sur ce poste, ou alors un euro par habitant reversé à des structures essentielles du territoire. Ça peut être un plaidoyer politique comme ça, ou carrément une sanctuarisation de certaines associations essentielles au territoire. Voilà, mais si on parle de toutes les associations, clairement, regardons ce qu'elles apportent à la société, et elles sont d'une richesse incroyable. C'est une vraie force, quoi. Et j'étais ravie de voir qu'il y avait une mobilisation nationale, interassociative. Ça nous a fait du bien. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown.
every time, just like the last. On the ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Venez d'écouter Golden Brown du groupe The Stranglers. En deuxième partie d'émission, c'est le temps de la chronique, et une chronique qui est faite par moi-même, puisque aujourd'hui nous sommes un peu toutes seules avec Luce. Tout le reste de l'équipe de Radio Campus Amiens est parti faire du secourisme, un stage en secourisme, voilà. Donc nous sommes toutes les deux en studio, ça fait un petit peu bizarre, mais c'est aussi le temps de prendre le temps de, exactement, de parler un petit peu, et je vais vous parler aujourd'hui du spectacle que j'ai vu hier soir à la Comédie de Picardie. J'ai donc assisté à un spectacle qui donne envie de vivre un peu plus fort, un spectacle librement inspiré de la vie de Colette, mis en scène par Léna Brébon, avec Chloé Segna, seule en scène. Et tout de suite, il faut le dire, ici, on n'est pas dans une biographie bien rangée, ni dans une leçon de littérature. On est dans une revue de music-hall, joyeuse, foisonnante, parfois excessive, à l'image de celle qu'elle raconte. Car Colette, justement, n'a jamais tenu en place. Sidonie Gabrielle Colette naît en 1873 dans une Bourgogne rurale, au milieu des animaux, des plantes, et sous le regard d'une mère hors nom, Sido. Une femme libre, fantasque, qui élève sa fille loin des carcans et qui restera toute sa vie une figure fondatrice. Cette enfance, le spectacle la convoque en filigrane, comme une origine, celle d'un rapport charnel au monde, au corps et aux sensations. Puis, Colette arrive à Paris. Elle épouse Willy, figure du tout Paris, brillant, cynique et surtout infidèle. Elle écrit, mais sous son nom à lui, « Les Claudines deviennent un immense succès ». Sans qu'elle en récolte vraiment les fruits. Là encore, le spectacle ne s'attarde pas sur les détails juridiques, mais fait sentir l'injustice, la dépossession et surtout l'élan d'émancipation qui va suivre. Car Colette ne se contente pas d'écrire, elle monte sur scène, elle danse, elle fait la pantomime, elle se dénude parfois. Elle embrasse une femme sur la scène du Moulin Rouge en 1907, scandale immédiat, spectacle interdit. Colette choque, dérange, fascine. Et ce parcours-là, Cléo Seignat le raconte avec un plaisir évident. On passe d'un numéro à l'autre, d'un costume à une posture. Le musical devient le lieu idéal pour raconter une femme qui a fait de son corps un espace de liberté. Ce qui est très réussi, c'est le jeu de miroir entre Chloette et Cléo Seignat. Car le spectacle ne parle pas seulement d'une femme du passé, elle parle aussi d'une artiste d'aujourd'hui, de ce que ça veut dire être une femme sur scène, exposer son corps, sa voix, son désir. Cléo, formée comme une comédienne puis passée par l'effeuillage burlesque, apporte à Colette quelque chose de très contemporain. Son visage extrêmement expressif emprunte parfois au clown, parfois au cinéma muet. Elle chante, elle danse, elle joue avec une énergie contagieuse. On suit aussi la Colette écrivaine, la chroniqueuse, la femme publique, celle qui écrit dans les journaux, qui observe le monde, qui traverse deux guerres et qui devient une figure centrale de la vie littéraire française. Celle qui finit présidente de l'Académie Goncourt, première femme à occuper ce poste. Une trajectoire vertigineuse que le spectacle embrasse sans jamais l'alourdir. Et puis, il y a ce point délicat, mais essentiel, Colette et le féminisme. Colette ne se disait pas féministe. Elle a même tenu des propos extrêmement violents à l'égard des suffragettes. Des phrases qui, aujourd'hui, heurtent de plein fouet. Là où beaucoup de spectacles biographiques choisiraient d'édulcorer ou de passer sous silence, celui-ci fait le choix d'en parler. Sans excuser, sans condamner lourdement, mais sans cacher non plus. Et je trouve ça précieux. Oui, on peut aimer un artiste, une artiste immense, reconnaître sa modernité radicale tout en regardant ses contradictions en face. Ma seule réserve peut-être, c'est que cette Colette-là est avant tout présentée comme une incarnation à la liberté joyeuse. Ses aspérités les plus dures, son égoïsme parfois, restent en retrait. J'aurais aimé que le spectacle aille encore plus loin dans cette zone de fragilité. Mais malgré cela, je suis heureuse et conquise de cette sortie. Conquise par la fougue, par la vitalité, par cette joie de vivre presque insolente de ce spectacle qui fait rire. Il émeut aussi, il déborde. Il rappelle qu'on peut parler d'histoire, de littérature, de féminisme sans jamais renoncer au plaisir. Musical Colette est à voir encore ce jeudi 18 et vendredi 19 décembre à 20h30 à la Comédie de Picardie. Un spectacle qui ne cherche pas à figer une icône, mais à faire entendre encore aujourd'hui une voix libre. Et rien que pour ça, ça vaut le détour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter en musique, évidemment, comme toujours, avec le choix de Luce, bien évidemment. Elle a choisi le titre Military Fashion Show du groupe And One. Someone's creeping on my floor, and
to go.